Voilà, alors la Bienheureuse Vierge Marie et l'Église. Je prends au numéro 61, la fin du numéro 61. Alors, on parle un peu tous les mystères de la vie que Marie a vécu, unie à Jésus, comme le décrit l'Évangile, et on dit « Elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareil par son obéissance, sa foi et son espérance et son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. » Ici, vous avez je cite ça parce qu'il y a un petit mot qui est essentiel pour comprendre le mystère de l'Église et tel qu'il se définit dans le Concile Vatican II, mais tel qu'il se définit aussi dans toute la spiritualité de l'Église tout au long de sa vie, c'est dans ce petit mot « coopération », qu'on dit aussi « participation », qu'on dit aussi en grec, dans la spiritualité grecque, la synergie, l'action avec. Le mystère de l'Église, ça va être vraiment cette... C'est la foi, c'est cette réponse. Dieu a l'initiative et nous répondons. En entendant, en contemplant le mystère de Dieu, en contemplant Jésus, qu'est-ce que vient faire Jésus? Il vient nous unir à son mystère de rédemption. Hein, on veut en sortir, justement, il faut sortir de cette image qu'on a eue pendant trop longtemps. Hein, l'Église, elle fait tout et puis nous, on est les bénéficiaires. Simplement, un peu passif. Non, on est tous actifs. Ça ne veut pas dire qu'on va tous faire tout et tout, n'importe quoi. Mais ça veut dire que nous sommes toujours dans un dialogue. Qu'il y a cette grâce de Dieu qui nous est donnée avec abondance, mais nous avons à y répondre. Nous avons à y répondre. Et ici, Marie, elle a une coopération absolument sans pareil. Et notre vie, elle est appelée à être une coopération avec Dieu, à répondre à cette invitation. Je t'invite à être saint. Je t'invite à être comblé des bénédictions spirituelles dans le Christ. Je t'invite à être le nouvel Adam, à sortir de la domination, de la concupiscence, mais pour rentrer, je crois que vous savez tout maintenant sur la spiritualité de communion, dans une spiritualité de communion, hein, pour rentrer dans cette dimension du cœur qui est fait pour aimer et être aimé. Cette manière que Dieu a, comme Jésus nous le révèle, on le prend et on le reprendra, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est Père, hein? Ben, c'est tout simple. C'est qu'il a, pour ses créatures, et pour les hommes en particulier, eh bien, un amour de père. C'est pas d'abord un juge, c'est pas d'abord quelqu'un qui est un horloger, c'est pas d'abord un garant, un financier, ou un garant de l'ordre, c'est Dieu qui est passionné par ses enfants, et Jésus nous dit, pour être entré dans le royaume, il faut être des enfants, c'est-à-dire l'enfant, il doit grandir. Et la plus belle manière dont c'est raconté, c'est dans le Talmud, je pense, qui dit que derrière chaque créature, il y a deux anges. Derrière chaque personne, mais aussi derrière chaque brin d'herbe. Et qu'est-ce qu'ils font ces anges? Ils sont là, derrière, et puis ils grandis, grandis, grandis. Et le royaume que Dieu nous donne, il nous appelle à grandir. À grandir dans l'amour, à grandir dans la vie pour vivre une vie, quelles que soient ses conditions, une vie en plénitude. De vivre à plein ce que nous avons à vivre. Que nous soyons d'ailleurs dans la facilité, que nous soyons dans la difficulté, mais que nous vivions chaque instant. Et ça, ça va être cette coopération. Marie coopère, que ce soit à la naissance dans les mystères joyeux, que ce soit à la croix dans les mystères douloureux, mais elle vit à plein et elle collabore. Et notre vie, je vous disais, c'est pas simplement être des bénéficiaires de la grâce, contrairement à ce que nous demande l'État depuis 1905. Hein, c'est la religion, c'est pas pour notre développement personnel, hein, mais c'est une coopération au dessein de Dieu. C'est-à-dire que quand je deviens chrétien, je deviens missionnaire. C'est-à-dire, quand je deviens chrétien, je reçois la grâce et elle doit couler à travers moi. Elle doit couler. Parce que comme j'ai été aimé, et comme le fait d'être aimé par Dieu et purifié par Dieu vient me régénérer, me renouveler, eh bien, je suis appelé à rayonner cela. Bien. Et Marie va nous entraîner là. Et elle est pour nous... Elle est pour nous un modèle. Alors je reprends, c'est ici le numéro. Elle est donc mère, hein, elle coopère, elle est vraiment mère de la grâce avec Jésus, mais en même temps, elle est le modèle. Je reprends le numéro 63, Lumen Gentium. La bienheureuse Vierge se trouve également en intime union avec l'Église. De l'Église, selon saint Ambroise, la Mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. En effet, dans le mystère de l'Église, elle reçoit, qui reçoit elle aussi à juste titre le nom de Mère et de Vierge, la bienheureuse Vierge Marie occupe la première place, offrant un titre éminent et singulier le modèle de la Vierge et de la Mère. C'est intéressant ici, je ne sais pas si vous faites attention, hein, mais... L'Église, c'est-à-dire, nous en faisons partie. Elle devient ce qu'est la Vierge Marie. Elle est Vierge et Mère. Cette grâce de la Vierge Marie, c'est la grâce de l'Église. Il y a constamment cette superposition entre la Vierge Marie. C'est-à-dire, tout ce que vit Marie, et on le verra dans les sept paroles, avec les sept dons du Saint-Esprit, ce que vit Marie, c'est nous qui avons à le vivre. Elle le vit d'une manière bien singulière, bien particulière, d'accord, mais c'est pour nous, pour que nous vivions des mêmes dons du Saint-Esprit, nous laissions cette vie de Dieu, cette vie selon Dieu, se développer dans notre vie. Donc voilà. Je passe, etc. C'est dans sa foi et dans son obéissance qu'elle a engendré sur la terre le Fils du Père, sans connaître d'homme, enveloppé par l'Esprit Saint comme une nouvelle Ève qui donne non à l'antique serpent, mais au messager de Dieu, une foi que nul doute n'altère. Elle engendra son Fils, dont Dieu a fait le premier-né parmi beaucoup de frères, c'est-à-dire parmi les croyants, à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte sa coopération et son amour maternel. Donc nous allons nous laisser porter par cet amour de la Vierge Marie, par cette réponse, par cette foi, par cette charité de Marie, hein, et nous allons nous laisser éduquer par la Vierge Marie. Cette superposition du mystère de Marie et de l'Église, eh bien, vous l'avez dans l'Apocalypse. Vous savez, dans l'Apocalypse, c'est montré au chapitre 12 un grand signe, le temple de Dieu qui s'ouvre, et apparaît une femme. Dans les douleurs de l'enfantement, avec couronnée d'étoiles, tout le monde connaît ça. Donc on va chanter au refrain.
Nous te saluons, toi, la notre âme, Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes bras, en toi nous est donné,
le soleil pour manteau, la lune sous les pieds. Et cette figure, elle a été interprétée tout au long de la vie de l'Église, et bien à la fois comme l'image du peuple de Dieu et à la fois l'image de la Vierge Marie qui vont se confondre de manière qui sont l'un dans l'autre. Parce que Marie, comme dit le Concile, elle est justement cet aboutissement de la grâce chrétienne plénière. Et cet aboutissement, eh bien, il est devant nous. Et comme l'explique très bien aussi Jean-Paul II dans son encyclique sur Marie, la Marie pleine de grâce, ce pleine de grâce, il s'origine aussi dans ce très beau texte des Éphésiens de saint Paul. Il nous a bénis des bénédictions spirituelles dans le Christ, dans cette plénitude de la bénédiction de Dieu qui est pour nous. Marie, c'est, j'allais dire, dès le début de sa vie par cette grâce pour sa mission, mais et pour nous, c'est aussi notre futur. Et si dans ce plein de grâce s'origine le thème de l'Immaculée Conception, eh bien, cet être immaculé, il est devant nous. Vous voyez, c'est quand on réfléchit sur la pureté dans l'Église, ça c'est toujours quelque chose de très important. La pureté, c'est pas comme nous pensons toujours, bon, on est, quand on est enfant, on est innocent, on est pur, etc. Bon, quoique, allez dans les cours de réciréation, vous verrez que c'est pas si facile que ça. Où l'enfant à 18 mois qui prend les jouets du petit voisin ou de son petit frère et qui lui tape dessus en disant c'est à moi. Mais c'est pas cette innocence qu'on a et qu'on va perdre au fur et à mesure où on avance. Non, la pureté, elle est devant nous. Parce que c'est en avançant avec le Seigneur que nous devenons purs, que nous devenons saints, que nous allons avancer, que nous allons grandir dans cet amour. Et justement, cette grâce, elle est pour nous. Et cette grâce de Marie, elle est pour nous. Pas Marie en anticipation, bien sûr, mais pour nous en processus de transfiguration petit à petit. Bien. Alors, je voulais reprendre un peu, bonjour, on va prendre notre temps un peu. Si je vous parle de l'Apocalypse, je vais juste situer un peu, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut toujours faire quand on regarde quelque chose de l'Écriture. Il faut toujours situer le texte où on le prend. Faites attention quand vous prenez un texte, bon, on peut le faire pour la prière, etc., on prend un texte comme ça, mais si vous voulez aussi vous pénétrer un peu de la Bible, de voir où ça va, où ça vient. Et vous allez voir le texte de l'Apocalypse qui nous paraît en général obscur, on n'y touche pas parce qu'on va dire on ne sait pas trop ce que c'est, etc. C'est quand même bizarre parce que c'est un texte auquel est attachée une béatitude. Dans le texte de l'Apocalypse, on vous dit « Heureux celui qui lit ce texte et qui le comprend. » Bon. Mais on ne va pas se priver de cette béatitude. Je vais m'appeler là. C'est dès le début, vous voyez, au verset 3 du chapitre 1. « Heureux celui qui lit » et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et la gardent, gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Le temps est proche, je vous rappelle, c'est la spécificité de la prédication de Jésus. Qu'est-ce que c'est que la prédication de Jésus? C'est dire, le royaume, il est tout proche. Ça veut dire qu'il n'est pas demain, il n'est pas après-demain, il est là. Commencez. Il est tout proche. Et notre spécificité, c'est de vivre déjà aujourd'hui de cet amour de Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de l'Ancien Testament ou une vie morale. On va se rectifier pour être bien et être bien pour pouvoir être comme Dieu. Non, c'est recevoir cet amour de Dieu, recevoir la grâce de Dieu et se laisser transformer. Bien, avec la coopération, ça va nous demander des efforts, bien sûr. Ça va demander toute notre force. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, Mais ce n'est pas simplement moi qui le fais et qui dois me conformer à quelque chose d'extérieur. C'est de recevoir cet amour de Dieu. Donc, n'hésitez pas. C'est une retraite. Vous allez avoir un temps en couple. Vous allez sûrement parler, mais prenez des temps de silence ensemble et de prière aussi pour recevoir cet amour et se laisser transformer. Enfin, bon, très bien. Et Parce que ce livre de l'Apocalypse, il va nous donner, dans le contexte de crise dans lequel est notre monde, il va nous donner ce sens de la coopération avec l'œuvre de Dieu. Et je reprends. Hein. Vous avez, ça on le connaît à peu près, parce qu'on le lit quelquefois un peu dans la liturgie, et puis c'est la partie qui semble la plus facile à lire. Hein, il y a sept lettres aux sept églises. Et de quoi il s'agit? Eh bien, les sept, le chiffre sept, ça représente l'église universelle, hein, entière, c'est le chiffre parfait. Qu'est-ce qui est dans le temps et qui est engagé dans le combat spirituel, qui est engagé dans cette grâce de Dieu, dans un monde en difficulté, et il est donné conseil à chacun, encouragement et en même temps, tu pourrais faire des efforts là-dessus, où il y a ceci, où il y a cela, etc. On en connaît tous, tu as perdu ton amour, la ferveur de l'amour, du premier amour, etc. Et ça c'est donné. Chez Marie aussi, c'est toujours fort. Chez le Père Lamy, c'est la même chose, la grande vision du Père Lamy dans sa vie. Hein, Marie apparaît, etc. C'est un bouleversement pour lui. Et après, qu'est-ce que fait Marie? Ben, elle lui rappelle les grâces qu'elle lui a données, et puis elle lui parle de ses défauts pour qu'il puisse les corriger. Hein, il y a les deux. Hein. C'est toujours, nous sommes engagés dans ce combat spirituel, dans cette transformation. La vie spirituelle, comme dira la vie chrétienne, comme dira Saint Paul, c'est accepter d'être transfiguré petit à petit, hein, de se laisser conformer à la lumière que nous avons reçue, de se laisser conformer à la grâce que nous avons reçue au baptême, hein, d'être des fils. Ensuite, vous avez sept sceaux. Hein, l'agneau, encore, il y a un agneau, et puis l'agneau, le prophète, le Jean, là, il pleure parce que personne peut, il a sept sceaux, il ne peut pas ouvrir ses sceaux. Qu'est-ce que c'est que ces sceaux? Eh bien, on va avoir dans un monde en crise spirituelle, il est donné la chance de la conversion par la contemplation des réalités du ciel. Et là, on voit la vision de l'agneau, la vision, etc. L'agneau immolé, aussi vainqueur. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La possibilité de la conversion, si nous nous ouvrons à cette contemplation. Hein, la contemplation, ce n'est pas simplement être fixé devant sa télé. Hein, non, la contemplation, c'est apprendre à savourer, à goûter. Hein, et quand je goûte un mets, je me l'approprie. Je le connais, je le reçois. Bien. Je passe très vite, hein, parce que après vous avez les sept trompettes, et les trompettes, ça représente, on sonne la trompette pour ouvrir, hein, une action. Le premier, il est plus dans les sept sceaux, c'est la contemplation. Par exemple, on sonne le chauffard, on sonne la trompe de corne de bélier de mouton, pour ouvrir le jour du Shabbat, hein, ou pour le fermer, ou pour proclamer une fête. On ouvre un temps, c'est un peu ce temps du jugement du monde. Et là, ça va être intéressant, bon, je passe très vite, vous avez les quatre premières trompettes, c'est un peu, on est un peu dans les crises des valeurs sociales, d'un monde trop sûr de lui. Ça décrit ça un peu l'Apocalypse. Et qui devient dur et qui se ferme à l'amour et à la vérité. Voilà la condition dans laquelle nous vivons sous tous les temps. Mais aujourd'hui aussi, vous pouvez bien le comprendre, où nous avons vécu notre vie chrétienne. Une crise des valeurs sociales, d'un monde trop sûr de lui et qui devient dur et qui se ferme à l'amour et à la vérité. Puis vous avez la cinquième trompette qui est une emprise du mal, une emprise du diable momentanée, qui fait comme prendre conscience d'un monde où Dieu est absent. Ça, c'est intéressant. Vous avez n'avez pas entendu.
Je reprends plus fort.
La cinquième trompette, il faut que je fasse la trompette, qui, vous avez comme, on voit dans cette cinquième trompette comme une emprise du mal, une emprise du diable qui est momentanée sur le monde, mais qui fait prendre conscience, eh bien, qui fait de la nature d'un monde où Dieu est absent. Et puis vous avez la sixième trompette qui représente plus la désertification spirituelle, la mort spirituelle du monde, cette infécondité du ciel qui est fermé. Un plus recours au ciel, etc. Et du coup, il y a une infécondité du monde. Et puis on va ouvrir, alors vous savez, c'est comme les poupées russes, hein, l'Apocalypse. C'est-à-dire on ouvre quelque chose, et puis au moment où on pense que c'est la dernière ouverture, et quand on ouvre le septième sceau, on ouvre, et puis il se fait un silence d'une demi-heure, et puis je viens sept anges avec sept trompettes. Puis quand on arrive à la sixième trompette, à la septième, c'est la même chose, hop, et puis on voit sept coupes. Hein, puis ça, c'est, on passe d'un mystère dans l'autre. Voilà. Le premier, je vous dis, c'est plus la contemplation. Le deuxième, c'est plus la déclaration du jugement de Dieu avec les trompettes. Le troisième, c'est plus cette exécution du dessein de Dieu. Et là, on va avoir, au milieu de tout ça, les grandes figures. Des grandes figures qui sont données avant les sept coupes. On va en voir une. Alors, on va avoir. Je vous les énonce simplement. Vous allez avoir les deux témoins, la femme, le dragon, la bête de la mer, la bête de la terre, et puis on aura les coupes ensuite. Les deux témoins. Ça, c'est intéressant. Bah, tout est intéressant. Hein. Bon. Je donne à mes deux témoins de prophétiser. La parole de Dieu n'arrête pas d'être prononcée. Elle n'arrête pas. Dieu n'arrête pas de parler. À nous d'écouter. Hein. Et ce sont deux oliviers, deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Ils résistent au mal, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. C'est l'évocation du prophète Élie. Et puis ils vont être, c'est un peu la prophétie aussi, qui est toujours un peu de tous les temps, qui est toujours un peu rejetée, cette parole de Dieu qui est rejetée. Ils vont être mis sur la place publique, ils vont y être exposés, etc. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils seront dans la joie, ils échangeront des présents, car c'est Dieu, parce qu'ils vont, être morts, hein, et donc ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais après ces trois jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux et ils se dressèrent. Alors une grande frayeur tomba sur ceux qui les regardaient. Vous voyez, j'ai entendu une voix forte qui disait « Montez ici » et ils montèrent au ciel. C'est assez intéressant parce que c'est ce mystère de Dieu à travers ses témoins. Il y a sur notre terre constamment des témoins de Dieu. Il y a sur notre terre constamment la parole de Dieu qui est annoncée. Mais en même temps, c'est cette grande difficulté de l'écoute. Nous avons une difficulté à écouter la parole de Dieu, à la recevoir. Et c'est ce combat. Et c'est le rôle de la prophétie, un peu à l'intérieur dans toute l'histoire de l'Église, enfin, déjà l'histoire d'Israël, hein, les prophètes qui sont rejetés, mais cette parole, elle est confirmée par Dieu, elle nous est adressée. Bien. Nous aurons ensuite, après les deux témoins, on va avoir la femme qui apparaît dans le ciel et les deux dragons. Enfin, et le dragon, pardon. Alors, le dragon, je passe vite, puis je reprendrai dans la deuxième heure un peu, on reprendra l'Apocalypse 12 pour bien s'enraciner de ce qui est dit et ce qui nous est proposé pour coopérer à l'action de Dieu. Le dragon, si vous voulez, c'est le principe de la révolte contre Dieu. La femme qui donne naissance au Christ, elle est l'Église dans sa pureté, dans son achèvement, dans son accomplissement, dans sa vocation plénière, et elle est donc Marie. Ensuite, vous avez une bête qui sort de la mer. Elle est suscitée pour combattre les croyants, les enfants de la femme, c'est-à-dire l'Église. Et elle est séductrice, et il va y avoir une fascination idolatrique. Une fascination, ça c'est intéressant. J'ai redécouvert un verset l'autre jour, vous savez, dans la Bible, on découvre toujours. Si vous ennuyez, lisez la Bible, c'est passionnant, parce que, bon, il faut un petit peu de métier, hein, pour, bon, d'accord, mais après, vous découvrez toujours des choses nouvelles. Et moi, j'ai redécouvert un verset que j'avais pas vu, j'y avais pas prêté attention. Vous avez dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, tout de suite après, hein, on est appelé à garder la simplicité de l'appel du Christ. Et voilà ce qu'il dit. Gardez-vous. Voilà. Bon. Ah oui, pardon, voilà. Voilà. Il parle justement de l'apôtre Paul, il a présenté cette église de Corinthe comme on présente une vierge à un époux. C'est vraiment cette présentation pour ces épouses. Et il dit, mais je vous ai fiancé à un époux unique, le Christ, mais j'ai peur que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent loin de la simplicité due au Christ. Et ça, c'est tout le drame. Vous voyez, ce combat spirituel, c'est tout le drame. Est-ce qu'on va être fils du nouvel Adam et de la nouvelle Ève, ou est-ce qu'on va rester fils d'Adam, du vieil Adam et de la vieille Ève, hein? Et c'est quoi cette séduction du serpent? La séduction du serpent, ben, c'est simple. Hein? Ah, Dieu vous a dit ça, mais en fait c'est pas ça, mais il a peur que, etc. C'est de présenter Dieu comme un rival, de présenter Dieu comme un ennemi, de présenter Dieu comme quelqu'un qui est le responsable de tous nos maux. Hein? Voilà. Cette séduction, c'est de nous arracher de cette intimité que Adam partageait dans le paradis avec Dieu et que Jésus vient réintroduire dans sa relation de fils bien-aimé qui appelle Dieu Papa. Papa, Abba. Essayez, il n'y a pas grand monde qui est capable de dire dans sa prière intime Papa à Dieu, hein, dans le sens où j'ai dit, hein, grandis. Et si dit mon fils, il fait des bêtises, eh bien, il en fera de toute façon, hein, ou des graves bêtises, mais n'empêche que, comme dit le Seigneur, le prophète Osée, chaque fois que je prononce ton nom, mes entrailles sont bouleversées. Hein, mes entrailles frémissent, elles sont bouleversées, parce que c'est mon fils, parce qu'il y a ceci, il y a ceci, c'est cela. Peut-être qu'avec mes idées, ça me met en colère, etc., ou avec mes peurs, etc., mais c'est mon enfant. Et la séduction du serpent, eh bien, c'est ça, c'est de mettre cette distance, de mettre cette distance avec Dieu, de rentrer, puis de commencer à chipoter, puis de dire, c'est de ne plus voir la beauté de la création, de ne plus voir la bonté de Dieu. Et il y a cette fascination de devant cette opposition, devant toutes ces raisons, on pense que oui, c'est cette idolâtrie qui va mettre la force qui conduit dans le monde, dans toutes les puissances, ou dans tous les systèmes, qui l'argent, ou tout ce que vous voulez, qui est une fascination extraordinaire, mais qui nous éloigne, hein, qui nous éloigne de cette spiritualité de communion pour laquelle nous avons été faites, ou spiritualité du cœur, si vous aimez mieux. Alors, la bête de la mer, et puis après vous avez une bête de la terre qui va sortir, hein, et qui est en fait, qui est une fausse prophétie, hein, qui est une contre-mystique de l'abstraction. Peu derrière, c'est ce qui est la gnose, par la connaissance, etc. Bien. Et puis, à la fin de ces grandes figures, vous avez quand le monde paraît tomber aux mains des ténèbres, le Christ arrive sous la figure de l'agneau, hein, sur le mont Sion, qui est d'autre. Alors voilà un peu le contexte, si vous voulez, de l'Apocalypse. Alors après, vous aurez avec les coupes, le jugement, et puis la prostituée qui tombe, le dragon qui est défait, et Michel qui gagne, et puis la vision du Christ, et puis de l'Église, hein, qui descend du ciel. Voilà, et notre vie spirituelle dans sa plénitude, c'est-à-dire dans ce cri « Viens, Seigneur Jésus ». Maranatha. Viens Seigneur Jésus, parce que c'est dans ce lien constant, hein, c'est dans ce dialogue. Toute notre vie spirituelle, elle est toujours dans ce dialogue vivant, dans cet appel de Dieu, hein, et cet appel qui a soif de répondre. Alors, pour serrer d'un petit peu plus près, ce combat, on va le retrouver donc dans notre chapitre 12, que dans la deuxième trois quarts d'heure on va reprendre ensemble, mais vous allez avoir cette révolte, hein, de cette révolte angélique, et puis la naissance de l'enfant, tel que c'est décrit, qui va être mis en trois temps. Vous avez la bataille de Michel, de l'ange de Dieu, hein, Michel, et du dragon. Michel, pourquoi on l'appelle Michel? Michael, parce que comment il lutte? C'est justement en nous ouvrant à la contemplation, en nous ouvrant aussi à ce jugement. Hein, et le nom de cet ange, c'est Michael, c'est-à-dire qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Et on va avoir ça, c'est en trois temps, parce que dans toute la Bible, on va retrouver ça dans la tradition, hein, parce que le combat de l'ange Michel avec le démon, ça prend son origine et dans la lecture, puis dans la relecture, bien sûr, d'un chapitre du chapitre 14 d'Isaïe, qui présente le prince de Tyr comme un prince super puissant qui veut tout commander, qui veut tout faire à la place de Dieu, qui veut prendre la place de Dieu, etc. Hein, on est presque au transhumanisme. Et puis qui tombe. Hein. Et voilà. Vous avez ça aussi dans la vie de Jésus. On voit déjà ce combat dans la vie de Jésus. Hein. Dans Luc, chapitre 10, verset 18, quand les apôtres reviennent, ils se sont essayés à pratiquer la prédication de Jésus, hein, à laisser couler ce qu'ils ont reçu de Jésus, puis le partager aux autres. Jésus s'arrête et dit « Je voyais tomber du ciel comme Satan, comme l'éclair. Hein. » Déjà, c'est déjà dans cette vie Jésus qui accomplit ses vœux. Et puis, c'est ici montré à la fin des temps, hein, enfin à la fin des temps, du moins dans la dimension eschatologique. voilà. Et c'est vrai de cette bataille, mais c'est vrai aussi de l'avènement du Christ. L'avènement du Christ qui reprend toute cette histoire aussi dans ces trois temps. À l'origine, le désir du projet de Dieu avec la vocation de la femme et puis la rédemption, enfin Genèse 3.15, hein, sa descendance écrasera la tête dit serpent, ou suivant les traductions latines, où elle écrasera la tête du serpent. Voilà. Vous l'avez aussi dans la vie de Jésus, hein, avec effectivement l'avènement du Christ, avec le mystère de Noël. Et puis, vous avez Jean qui le contemple ici, hein, dans cette vision, j'allais dire, qui résume la vie de l'Église et qui est appelée à aller jusqu'au son achèvement. Alors, avant de rentrer dans Apocalypse 12, on fait une grande préparation pour rentrer dans cette intimité des paroles de Marie, mais c'est pour voir un peu comme ce tableau, un peu, pourquoi, comment Marie nous est donnée pour marcher avec elle, et comment, en regardant, en contemplant sa vie, nous allons comprendre aussi comment nous pouvons progresser, comment elle nous porte, et comment on va pouvoir grandir.